Dans notre étude sur le livre de Jonas, nous sommes arrivés au chapitre 3, à la fin du chapitre 3. Je lis le verset 10. « Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. » Encore 40 jours s'était écrié Jonas. 10, 20, 30 jours passent. La grande journée de l'Éternel approche pour Ninive, journée de ténèbres et d'obscurité. La ville est en proie à la plus grande anxiété. Elle tremble, et pourtant elle espère. Tantôt elle voit sa ruine inévitable, tantôt elle voit son salut encore possible. Et elle passe par des alternatives où l'espoir se mêle au désespoir. Pourtant, c'est son salut que Dieu veut, et non sa destruction, car Dieu avait vu qu'ils s'étaient détournés de leur mauvaise voie. Remarquons la sincérité de leur repentir. Au lieu de se borner, comme tant de gens, à formuler des vœux pieux sans jamais rien changer à leur genre de vie, ils changent réellement leur façon de vivre. À leur repentance verbale vient s'ajouter leur repentance effective. Ce sont des païens qui agissent ainsi. Païens plus sages que beaucoup de prétendus chrétiens qui se flattent du pardon de Dieu tandis qu'ils provoquent sa colère par de nouvelles transgressions. Ne nous y trompons pas. Rien n'échappe au regard de Dieu. Il ne prend pas l'apparence pour la réalité. Le verbiage, les déterminations pieuses, les promesses ne sont rien pour lui si les faits ne les accompagnent pas. Celui qui dit « je vais travailler à la vigne » et qui n'y va pas, s'expose autant à son déplaisir que celui qui refuse nettement d'y aller. C'est au cœur et aux actes que Dieu regarde et non pas aux paroles. Mais quand l'homme est sincère, le nom de cet homme fut-il Akab ou même Manassé, le plus mauvais roi de tous les mauvais rois d'Israël, Dieu suspend alors ses jugements. Dieu voit la douleur de Ninive, sa miséricorde est émue, et il ne trouve plus en lui la force de frapper. Nul spectacle ne l'intéresse comme celui de la repentance de sa créature. Rien ne désarme aussi sûrement son courroux que la repentance. Aussitôt que le père voit son fils prodigue reprendre le chemin de la maison paternelle, il vole à sa rencontre et le serre dans ses bras. L'aube du 40e jour se lève sur Ninive. En principe, c'est la dernière aube. Ninive sera-t-elle rayée de la carte du monde ? Pour Ninive, ce sera le jour le plus long de son histoire. Il s'écoule lentement. Jamais le soleil n'est monté si lentement dans le ciel. Jamais il n'a été si long à descendre. Sera-ce le dernier crépuscule? Nul signe de colère du ciel ne paraît. Le jour se termine enfin. Dieu n'a donc pas dédaigné sa repentance. Ninive a trouvé grâce devant lui. Quelle joie éclate sur toutes les places, dans toutes les habitations, dans tous les cœurs. Aux cris de détresse ont succédé partout des actions de grâce et des chants de triomphe. Ninive est sauvée. Le court chapitre 12 du prophète Ésaïe ne dit pas autre chose. « Je te loue, ô Éternel. » Car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues de toute la terre, poussez des cris de joie, et d'allégresse. Ninive est sauvée, avons-nous dit, du moins pour le moment. Puis s'élèvera une autre génération qui n'aura pas connu Jonas, et alors tout rentrera dans la vieille ornière de l'injustice et de la corruption. La repentance de la cité reine n'aura fait qu'ajourner le châtiment, comme la repentance d'Akab et de Manassé dont nous parlions il y a un instant n'a fait que suspendre les coups qui devaient frapper la dynastie de ces deux rois. Mais quoi qu'il en soit, Dieu épargne la grande ville, et il l'épargnera encore longtemps. Il la conservera pour accomplir par elle les grands plans de sa providence, pour briser bien des sceptres, pour renverser bien des trônes, pour châtier bien des nations, et parmi elles, aux profondeurs des voies de Dieu, le peuple de ce même Jonas, dont la parole puissante vient de bouleverser la ville et de la sauver. Quelques années plus tard, le roi régnant remettra la couronne d'Assur à son fils, puis ce dernier à son successeur, et c'est ce Salmanazar qui emmènera captives les 10 tribus d'Israël et les dispersera dans le monde. Puis viendra l'orgueilleux Sanchérib, et c'est alors que la ville superbe s'écroulera pour toujours et laissera l'empire à Babylone. Voyons maintenant le repentir de Dieu, car c'est bien ce qui est écrit. Dieu se repentit. Que faut-il entendre par cette repentance? Dieu se repentit à la manière d'un homme ignorant, faillible et pécheur? Loin de nous une telle supposition. Il est écrit que Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Sa parole est éternellement oui et amen. Quelle est donc cette repentance que, en plus d'un endroit, la Bible attribue à Dieu? C'est une façon toute humaine de parler qui signifie simplement que Dieu change sa façon d'agir envers telle personne ou tel peuple et les traite autrement qu'il l'avait d'abord annoncé quand il marchait encore dans le péché. La parole que le Seigneur avait donnée à Jonas n'était qu'une menace. Et comme chacun le sait, l'exécution de toute menace dépend toujours de certaines conditions, d'un « si », je souligne, un « si ». Dans le cas qui nous intéresse, cela sous-entendait nettement « encore 40 jours si Ninive ne se repent pas ». Il ne s'agissait pas d'un arrêt irrévocable, absolu, final. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé Jonas vers les Ninivites, sinon pour les avertir? Et pourquoi leur a-t-il laissé 40 jours de délai, si ce n'était pour leur donner le temps de s'humilier? C'est d'ailleurs ainsi qu'ils ont pris le sursis de Dieu. S'il en avait été autrement, ils n'auraient pas même tenté de se détourner par leur repentir de la colère de Dieu. Et la fin du livre nous prouve sans réplique que la parole de Jonas n'avait été qu'une menace. Comprenons-nous bien. Non pas une menace à la façon des parents d'aujourd'hui, qui promettent toujours la fessée à leurs enfants sans jamais la leur donner. Car Dieu ne parle jamais en vain, et il ne menace pas non plus en vain. Le jugement serait infailliblement tombé sur eux s'ils n'avaient changé leur attitude envers Dieu. Je me suis fait dire que les cabines des voyageurs de l'espace sont peintes en blanc d'un côté et en sombre de l'autre. On sait que le noir absorbe les rayons chauds du soleil, tandis que le blanc les repousse. Les spationautes maintiennent une température supportable en présentant au soleil une ou l'autre face de leur cabine. Le soleil, lui, ne varie pas, mais ses effets varient selon les côtés qui lui sont exposés. De même, dans le repentir de Dieu, s'il y a un changement, c'est chez l'homme et non chez Dieu. sa manière d'agir envers nous se modifie nécessairement d'après notre conduite envers lui. Ce sont les rebelles et les endurcis que Dieu frappe, mais sa colère se fond devant les cœurs brisés. Si donc Dieu est prompt à pardonner de si grandes offenses, que faut-il répondre à ceux qui, citant l'exemple de Ninive, affirment que Dieu est trop bon pour punir éternellement ses créatures, et que s'il agite la menace du jugement à venir, c'est uniquement pour nous donner la frousse du mal? Ce ne serait dès lors qu'une histoire de loup-garou ou de père fouettard. Celui qui tiendrait de pareils raisonnements se séduirait lui-même. Si Dieu est parfaitement bon, il faut se souvenir qu'il est parfaitement saint, parfaitement juste et vrai, et que ses menaces, comme ses promesses, ne manqueront pas de s'accomplir. Vous ne pouvez pas ébranler ses jugements sans compromettre ses promesses. Ce serait alors décider arbitrairement que telle parole de la Bible est vraie et que telle autre ne l'est pas. Sur ce point, emboîterions-nous le pas au néo-évangélisme barthien qui voudrait que la Bible n'ait parole de Dieu pour moi que lorsqu'elle me parle? Si les Ninivites n'avaient pas pris garde à la menace de Dieu, n'aurait-elle pas été pour autant parole de Dieu? La voix de l'Éternel à son serviteur Ézéchiel n'était-elle pas « qu'il l'écoute ou qu'il ne l'écoute pas, tu leur diras ». Mais répliquera-t-on « Ninive a été épargnée, la menace a été sans effet, mais Ninive s'est repentie ». Deux voix se font entendre en même temps à notre cœur. L'une est celle du serpent ancien qui, après avoir jeté le doute sur la parole de Dieu dans le cœur d'Ève, « Dieu a-t-il réellement dit que vous mourrez ?» lui a ensuite ouvertement nié cette parole « Vous ne mourrez nullement ». L'autre voix est celle du Maître qui nous aime assez pour nous dire « Si vous ne vous convertissez, vous périrez pareillement ». Laquelle de ces deux voix voulez-vous écouter? Laissez-moi vous répéter. La conversion ou la mort. Telle est la seule alternative que Dieu place devant nous. De deux choses l'une, se repentir comme Ninive ou périr. Eh bien, périssez en répétant « Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon ». Il est trop bon pour perdre ses créatures. Mais Dieu n'est pas dupe de cet hypocrite hommage rendu à sa bonté. Il sait que ce n'est là qu'une commode excuse inventée pour se calmer la conscience à peu de frais et pour vivre plus librement dans le péché et braver plus à l'aise ses jugements. Le moment est venu d'exprimer une pensée très importante. La voix qui nous dit au travers de la deuxième épître de Pierre « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable », cette voix-là, c'est celle du Père. Mais il y a une autre voix qui souffle à notre oreille que, lassé de nos offenses, Dieu a élevé entre son cœur et le nôtre une infranchissable barrière. Cette voix, c'est celle du menteur. Avant de nous pousser dans le péché, Satan nous dépeint le Seigneur indulgent jusqu'à la faiblesse. Il nous chuchote à l'oreille, « C'est pas si grave. Le Seigneur sait que nous ne sommes que des humains. » Mais sitôt après la chute, Satan nous voit sous le jugement de Dieu et il change de langage. Il nous le montre, sévère jusqu'à l'inflexibilité. Pour mieux nous tromper, il se déguise en ange de lumière, et il se fait Saint Satan, comme le nommait Luther. Il affecte de prendre la défense et les droits de la sainteté de Dieu. Il nous peint sous les couleurs les plus odieuses nos fautes passées, comme s'il avait si fort à cœur, lui, Satan, la gloire du Seigneur et son règne de justice. Il nous tient alors le langage du désespoir. À cette marque, nous le reconnaîtrons toujours. L'Esprit de Dieu, au contraire, après nous avoir convaincus de péché, de justice et de jugement, après nous avoir reproché nos infidélités, nous montre le cœur de Jésus comme notre asile et ses meurtrissures comme notre guérison. L'ennemi, lui, se sert de tout pour nous éloigner du Seigneur, pour nous décourager, pour enlever notre joie et nous plonger dans le désespoir. Il sait même citer la Bible, car il est un habile théologien, si toutefois la théologie consiste à ne connaître que la lettre des Écritures. Personne ne la possède comme lui. Il manie les textes de la Bible avec une redoutable dextérité, mais c'est toujours pour nous ruiner. Que le diable parle d'amour ou qu'il parle de jugement, c'est toujours pour nous perdre qu'il le fait. Dans ses mains, l'épée de la parole de Dieu blesse au lieu de guérir, et les plaies qu'il laisse suppures deviennent nauséabondes et ne cicatrisent jamais. Il n'y a pour nous qu'un moyen infaillible de parer à ses coups, c'est de se servir de ce que l'Épître aux Éphésiens appelle le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. C'est à l'exemple du Seigneur Jésus de citer la parole de Dieu d'une manière droite et complète à celui qui nous attaque au nom d'une parole mutilée, tronquée, appliquée à faux. C'est de lui dire « Arrière de moi, Satan, il est aussi écrit ». L'adversaire ne manquera pas de vous rappeler l'exemple de ces Hébreux qui tombèrent et qui ne purent être renouvelés à salut, comme cela est rapporté en Hébreux 6, et de vous dire « Comme eux tu avais la connaissance, comme eux tu avais goûté la puissance du siècle à venir, comme eux tu avais été rendu participant du Saint-Esprit, mais tu n'as pas la vraie foi, et leur sort sera le tien ». Il n'y a plus de pardon pour toi parce que tu as péché volontairement. Il ira même jusqu'à profiter d'un moment de dépression ou de mauvaise santé physique pour vous accuser d'avoir péché contre le Saint-Esprit et d'avoir ainsi commis le péché irrémédiable. Répondez-lui alors comme le faisait Charles Spurgeon lorsque des pensées de doute venaient l'assaillir. « Si jusqu'ici, disait-il, je me suis trompé sur mon état spirituel, je ne veux pas me tromper plus longtemps. Si je ne suis pas allé véritablement à Christ, je veux me jeter sur l'heure dans les bras de celui qui a dit « Venez à moi ». Et si je n'ai pas encore cru comme je devais, eh bien, Seigneur, je crois maintenant. » Aussi longtemps que l'ennemi vous montrera vos péchés, montrez-lui le sang qui les a lavés. Retournez contre Satan l'arme dont il se sert contre vous. Aussi longtemps qu'il dira « Dieu dans sa colère t'a rejeté », répondez-lui que le Seigneur n'éteint pas le lumignon qui fume. Il nous faut dire et redire « Non, on ne périt pas aux pieds du Seigneur. Ninive, la coupable, n'a pas péri. Saul de Tarse, pas davantage, pas plus que Marie-Madeleine, pourtant possédée de plusieurs démons. Il ne repousse personne, il l'a dit. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Je cite de mémoire les paroles de Blaise Pascal. « Jésus-Christ est un Dieu duquel on s'approche sans crainte et devant lequel on s'incline sans désespoir. » Celui qui n'a pas dédaigné la repentance de Ninive, ni celle de Pierre le renégat, ni celle du brigand crucifié à ses côtés, mépriserait-il la nôtre? Dieu rejetterait-il des soupirs, une humiliation, une douleur, des larmes qui ne sont après tout que le fruit de sa grâce en nous? J'en appelle à votre raisonnement. Celui qui vole au secours de la brebis qui s'égare, se détournerait-il de celle qui le cherche? J'aime aussi retrouver dans la délivrance de Ninive une image de ce qui se passe dans une âme quand le salut de Dieu y descend. La joie de Ninive, mais c'est la joie du racheté, qui ne vient pas en jugement, mais qui est passé de la mort à la vie. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, nous dit l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Quelle allégresse s'est emparée de moi, lorsqu'après avoir tremblé sous le tonnerre du Sinaï, j'ai enfin compris que Jésus m'avait arraché à la malédiction de la loi, ayant été fait malédiction pour moi. Plus grand a été le danger encouru, plus ressenti a été la délivrance. Plus le péril nous a serré de près, plus nous apprécions le salut. Ninive était au bord de l'abîme quand soudain un arrêt du ciel la sauve. Quelle félicité, surtout quand l'âme sauvée voit en même temps l'enfer se fermer sous ses pas et le ciel s'ouvrir sur sa tête. Enfin, plus une délivrance est générale et englobe le plus grand nombre, plus vive et plus universelle est la joie qu'elle inspire. Rendez-vous compte. 2 millions de personnes, 2 millions d'hommes qui passent en un instant des affres de l'agonie morale à la certitude du pardon de Dieu. Une chorale de 2 millions de voix qui fait monter jusqu'au ciel un volume d'adoration comme jamais jusque-là les anges n'en avaient entendu. Le jour vient où cette scène sera dépassée. L'époque glorieuse du millénium verra un jour, non plus un peuple, mais tous les peuples rescapés de la terre, sortir de l'angoisse où l'Antichrist les aura plongés et acclamer d'une voix le Christ roi qui va régner sur le monde. Mais bientôt aussi, et par-delà les élans terrestres, un autre peuple, spirituel et céleste celui-là, composé de la multitude des élus de tous les temps, ramenés de la tombe, de tous les âges et de toute la terre, unis aux myriades des armées célestes, avec des accents infinis dans l'infini des temps éternels, ce peuple, l'Église au complet, célébrera d'une seule voix, d'une seule âme, d'une seule pensée son divin époux, l'agneau immolé qui seul est digne de recevoir la louange, la puissance et la gloire. Comme il avait bien compris cette vérité, l'auteur de ce cantique. Oh, quel beau jour où devant sa face, tous tes rachetés apparaîtront, en célébrant ta gloire et ta grâce, de leurs chants les cieux retentiront. Puis au sein du vaste océan d'anges, nos cohortes déversent leurs flots, l'univers tremble au son des louanges, plus de combats, de pleurs, de sanglots, et le refrain dit « Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages, oh que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages !»